Une fois que je lui ai donné un énorme câlin, que je lui ai dit tu reviens vivant. Hein. Il nous a toujours fait cette promesse à Jess et moi depuis qu'on a perdu notre maman. C'était qu'il fallait qu'il rentre vivant.
Ok, salut les gars.
Annika a vu son père partir dans un océan de blanc. C'était en 2019. Mike Horn et son coéquipier, Borgi Osland, chaussaient leurs skis et débutaient la traversée de l'Arctique en totale autonomie. 1400 km, le froid, la glace, la nuit, les blessures, la fatigue. 3 mois d'efforts pour repousser les limites de son corps. Et puis la chute dans une eau gelée qui aurait pu coûter la vie à l'infatigable baroudeur. Mike Horn est un aventurier des temps modernes, multipliant les exploits sous l'œil des caméras. Il aurait pu devenir animateur télé, il a tenté, et puis a fini par reprendre le large. Sa vie médiatique se décline désormais en documentaire sur RMC Découverte, des bouts de vie remplis de défis, dont le premier est de rester en vie.
L'instant M. Eva Rock sur France Inter.
Bonjour Mike Horn.
Voilà, bonjour.
Comment allez-vous?
Écoute, c'est super bien d'être vivant. Ouais,
oui, on est d'accord.
Ici à Paris, c'est une ville que j'adore. Et de venir 2 heures chaque 4 mois, c'est un grand plaisir.
C'est un grand plaisir et je peux confirmer que vous êtes en très grande forme. Vous m'avez fait un hug aussi, comme vous dites. Je n'ai plus ni d'épaule ni de dos, mais c'est habituel avec vous. Avant de replonger dans votre aventure qui a failli vous coûter la vie plus sérieusement, hein, nous sommes vendredi et le vendredi, je commence par penser à l'équipe qui a préparé l'émission toute la semaine. Redouane Tella à la rédaction en chef, Frédéric Milano à la réalisation, Florian Dorimini à la technique, Marion Philippe et Glenn Gillet à la préparation. Merci à vous tous pour cette semaine à vos côtés. Et puis je pense aussi à vous qui nous écoutez. Je vous propose d'entendre quelques notes du générique d'une émission que je chérissais quand j'étais petite. À vous de nous dire de quel rendez-vous télévisuel il s'agit. Et si vous connaissez la réponse, il suffit d'envoyer un mail à l'instant M, c'est en un seul mot, à radiofrance.com, à la clé un cadeau que je garde pour moi si vous ne le voulez pas, le recueil des chroniques de François Morel, ça va aller, publié chez De Noël. Mike Horn, d'ailleurs, est-ce que vous regardiez la télévision quand vous étiez petit ou c'était plutôt les récits de Jules Verne, de Charcot, la vie de Robert Falcon Scott?
Oui, écoute, en Afrique du Sud, déjà, on a eu la télé très tard, parce que on était une famille, un peu normale et peut-être pas aussi riche que les autres. Pour moi, la télé était à l'extérieur.
C'est vrai.
Mon papa me disait toujours qu'en fait, tu regardes les feux, c'est la télé africaine. Et puis tu vois les flammes qui changent, et puis tu peux tout imaginer. Mais quand enfant, on a eu la télé, il y avait un programme sur Jacques Cousteau.
Ah, c'est vrai, ça vous a marqué?
Exactement. Ouais. Et puis, c'était le seul programme que je pouvais regarder. Et puis, moi, je me voyais sur son bateau, le donner des coups de main. Et puis, je disais à mon papa un jour que j'aimerais bien aller travailler pour lui. Et puis, il a dit, mais écoute, écrire-leur en lettres et puis, tu l'expliques pourquoi oui. Tu veux travailler avec lui. Et puis, je l'écrivais en lettres africaines. C'est sûr que Jacques Cousteau, français, il va pas parler africaines. Et puis, je l'écrivais en lettres, je le postais. Et vraiment, pendant plus qu'une année, tous les jours, j'étais...
Vous regardiez si vous aviez la réponse.
Ouais, exactement. Jamais eu une réponse. Et puis, en fait, c'est tout à fait normal, mais ça me faisait rêver. Parce que, en fait, peut-être un jour, je pouvais aller partir sur Calypso pour aller découvrir la Terre. Et puis, en fait, 25 ans plus tard,
c'était là
où, ouais, où je réalise mes rêves. Et puis, j'amène des autres enfants aussi avec moi. Pour le montrer la beauté de la planète et pour essayer de conserver notre planète.
Alors vous répondez à toutes les lettres que les enfants vous envoient, j'espère.
Pas tout à fait à 100%, mais j'ai vraiment essayé de le donner une occasion de venir explorer nos terres avec moi.
Ce soir, RMC Découverte va diffuser le premier documentaire d'une série de films intitulé « Survivre à l'impossible ». C'est un retour sur vos plus grands exploits, à commencer par cette traversée du pôle Nord, donc en 2019, dans des conditions extrêmes. D'ailleurs, est-ce que votre corps s'est totalement remis de cette traversée?
Oui, c'est sûr qu'après 2 ans qu'on se remette, mais les gelures, et puis quand on gèle en fait les extrémités de notre corps, c'est sûr que ça reprend jamais.
Oui.
Et puis on doit faire gaffe quand on repart dans les conditions de froid, parce qu'on gèle beaucoup plus vite qu'avant, quand la circulation est endommagée. Aussi, l'estomac prend beaucoup, vraiment beaucoup de temps de se réadapter à une vie normale, parce qu'on peut manger jusqu'à 12 000 calories. C'est équivalent que quelqu'un mange par semaine, nous on doit manger par jour.
Oui.
Autrement, on peut pas rester vivant dans les conditions extrêmes. Tirer un luge qui pèse presque 200 kilos, dormir à moins 50 sur la glace. Mais c'est juste la durée que on a fait 130 jours dans les conditions extrêmes. Et puis, l'estomac, après, il prend l'habitude de manger énormément de calories et tout d'un coup, il est gros comme ça, il demande la nourriture et puis de reprend sa place à mon âge. Et,
c'est compliqué. Je vous ai entendu dire dans une conférence, je suis toujours dans la merde, c'est juste la profondeur qui varie de temps en temps.
Oui, ça change jamais.
Vous avez touché le fond avec cette expédition en 2019.
Oui, quoi. Heureusement, il y a un fond.
Oui.
Et puis, il faut bien toucher fort, comme ça on peut rebondir. Mais c'est sûr que quand on pousse tellement notre limite, et puis on recherche vraiment des informations qu'on n'a jamais vécues, les ressources qu'on n'a jamais eu besoin de notre vie, c'est là où vraiment tu vas plus profond dans la mer.
Mais alors, est-ce que pendant cette expédition, vous vous êtes dit à des moments, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je me suis mis dans cette galère? Vous vous êtes posé cette question, vous n'avez pas le temps parce que vous êtes dans une forme d'action.
La réponse de cette question, c'est je me pose cette question avant de partir. Il ne faut pas partir et te poser ces questions, pourquoi je suis là. Tu sais pourquoi tu es là. Tu sais que aussi quand tu fais des erreurs, tu peux peut-être mourir. Mais ça me donne cette envie d'être vivant. Je peux pas rester à la maison en me demandant dans 30 ans si c'était possible de traverser l'océan Arctique. Je voulais savoir. Et puis quand on a cette connaissance et cette expérience, pour avoir une idée qui fascine notre cerveau, hein, ça devient une fascination de penser que c'est peut-être toi les premiers hommes sur Terre qui
oui.
peut traverser l'Antarctique ou l'Arctique. C'est là où ça devient vraiment excité. Tu deviens excité et dans l'attente, même dans les conditions extrêmes, tu te poses jamais vraiment
oui.
la question pourquoi tu es là.
Mais est-ce que vous avez trouvé la réponse à la question pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je fais tous ces exploits-là?
Je pense qu'on toute notre vie, on cherche cette réponse. Pourquoi je dois être là? Pourquoi des choses passent comme ça passe? Et pour moi, c'est ça qui rend ma vie intéressante. Je veux pas trouver des réponses. Je cherche pas une réponse. Je cherche d'être heureuse de ma vie. Et ça me rend heureuse.
Alors, on va découvrir dans ce documentaire aussi les images de votre chute, parce que votre coéquipier était en train de vous filmer. D'ailleurs, toutes les images du documentaire, c'est quoi? C'est des images que vous filmez,
exactement,
vous, et les... Borghi aussi.
Ouais, c'était des images que nous, on filmait avec notre caméra.
Mais puis... alors, pardon pour la question technique, mais comment on fait? Vous enlevez vos mains de vos moufles pour filmer ou
non,
vous avez trouvé un truc?
En fait, tout un système qu'on a les moufles avec comme un petit crayon... qu'on peut enclencher nos appareils et tout ça. C'est-à-dire qu'à moins 50 dans les vents et tout ça, tu peux pas vraiment enlever tes moufles.
C'est ça,
et tout
d'accord.
Ça.
Donc on va découvrir cette chute. Et à la suite de cette chute, eh bien c'est Annika, une de vos filles, qui est co-réalisatrice du documentaire d'ailleurs, qui témoigne.
Il a dit « j'aurais pas dû être vivant, je sais pas pourquoi j'ai survécu ». Et ça veut dire qu'il s'est vraiment remis en question à ce moment-là. Il a dévoilé toute cette faiblesse, il a montré une vulnérabilité qu'il n'avait jamais dévoilé. Depuis, il n'est plus totalement la même personne. Il n'est plus le même aventurier parce qu'il est arrivé à ça de la mort. Et je pense qu'il pense qu'il méritait de mourir pour cette erreur.
Mike Horn, elle a raison, votre fille. Cette chute, elle a vraiment changé beaucoup de choses dans votre vie.
Cette chute me permettait d'être presque mort, mais toujours vivant. Et puis, en fait, aussi, c'est pas la première fois que quelque chose comme ça arrive de ma vie. J'étais devant un peloton d'exécution en Congo pendant une expédition. J'ai une fois tapé la tête et puis j'étais noyé au fond de l'Amazon. Oui, je sais pas comment j'ai sorti. Ça veut dire que, en fait, ma vie était remplie avec beaucoup de situations où c'était pas moi qui a contrôlé. Et pour moi, quand tu fais une erreur, tu mérites presque de mourir.
Ah, c'est ça.
Moi, je suis pas mort.
Oui, oui.
Et puis, c'est ça qui change parce que quand on décide de faire quelque chose qui a jamais été fait par avant, on sait qu'il y a un risque. Et puis, quand on joue, comme on dit un peu avec les couilles des lions, c'est juste un dicton africain. c'est là où tu vas te faire mordre.
Oui.
Et puis,
pardon, l'expression est vraiment hilarante.
Ouais.
Je ris, mais je me suis demandé pendant cette aventure, est-ce que vous avez pleuré en revanche?
Ouais, c'est sûr qu'il y a eu
des moments durs.
Il y a des moments qu'on pleure à l'intérieur de nous. On peut pas montrer qu'on est fragile et faible parce que l'autre qui est avec
votre coéquipier, bien sûr,
avec toi dans la tente, lui aussi. Il faut qu'on construise, on casse pas. Et puis c'est sûr que tout ce qui est faible doit se passer à l'intérieur de toi. Et tu dois te reconstruire pour donner la force aux autres. Et puis c'est la même chose pour lui, Borghi. Il a eu une jeune fille juste avant de partir. Ça veut dire que lui non plus, il voulait pas mourir.
Ouais.
Et puis il voulait rentrer à la maison. Et moi qui a eu deux filles qui étaient un tout petit peu plus âgées, pour moi j'ai dit mais c'est pas trop grave si je meurs, c'est grave, mais c'est pas aussi grave que pour lui, parce que lui, c'est un jeune papa, il faut qu'il prend sa fille pour la montrer.
Vos filles, elles n'étaient pas du tout d'accord hein, avec ça, je pense. Elles avaient très envie.
Pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, je disais à Borghi, mais écoute, c'est moi qui dois prendre des risques, c'est pas toi. Si la glace casse, laisse-moi tomber dans la mer, mais toi, tu dois pas tomber dans la mer.
J'aimerais bien qu'on entende justement votre coéquipier, Borghi Wasland.
C'est un paradoxe que ce voyage soit possible en raison des bouleversements du climat. Nous n'avons pas fait ce voyage pour prouver ou documenter tous ces changements. Mais constater de nos propres yeux à quel point l'océan Arctique était en train de se transformer a été pour moi un chapitre très triste de notre aventure.
On l'entend bien, quand vous partez en mission, Mike Horn, c'est avant tout pour réaliser un exploit sportif, pour mener une aventure. Est-ce que la cause écologique est un de vos combats en parallèle de tout ça, ou est-ce que votre conscience écologique, en fait, elle s'est formée au gré de toutes ces aventures?
C'est sûr que je suis un explorateur. Je peux pas tout de suite devenir quelqu'un qui va tout d'un coup conserver notre planète parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Mais j'ai constaté que des changements que je vois vraiment sur mon terrain de jeu, dans l'Arctique, dans l'Amazon, en mer. J'ai fait 27 tours du monde avec mon bateau. C'est sûr que je vois de moins en moins de poissons. Je vois de plus en plus de plastique. Dans la jungle, quand j'ai descendu de l'Amazon à la nage, 7000 kilomètres. L'Amazon était encore intacte il y a 30 ans. Et là, dernièrement, il y a 3 ans, quand j'ai remonté l'Amazon, c'était complètement un endroit différent. Ça veut dire que en comparaison de ce que j'ai vu il y a 30 ans et aujourd'hui, il y a un énorme changement. Mais nous, on ne le voit pas tous les jours parce qu'on vit dans les grandes villes. Et quand on dit la traversée du pôle Nord que j'ai fait, c'était fait une fois dans l'histoire de notre planète. Il y a plus de gens qui ont marché sur la Lune. Et en 2006, quand j'ai passé au pôle, la glace faisait 2,56 m. d'épais.
Oui. Et puis, en 2019,
il faisait 8 cm.
Ouais.
Il y a 2,40 m de glace qui a disparu. Ça veut dire qu'on doit faire quelque chose. Il y a un changement. C'est pas seulement quelque chose qu'on dit.
Oui.
Mais on doit commencer de faire quelque chose.
Et alors pourquoi vous n'êtes pas à la COP26 là aujourd'hui?
Moi, je pense qu'il faut laisser les gens parler.
Il y a ceux qui parlent et ceux qui font.
Exactement. Et nous, du peuple, on doit prendre la responsabilité. Si on veut changer quelque chose, on doit arrêter de compter sur les autres. Moi, de ma tante à moi 40, si je vais arriver vivant de l'autre côté, c'est moi qui dois sortir la tente, c'est moi qui dois tirer la luge, c'est moi qui dois faire tout en sorte que je peux rester vivant de l'autre côté. Et puis, je peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Et notre planète, c'est aussi dans cette stade-là. Il faut que nous, les peuples, on fait quelque chose pour que notre planète puisse exister pour demain.
On débutait cette interview en parlant de vous quand vous étiez enfant et que vous regardiez déjà la planète avec émerveillement. Est-ce qu'aujourd'hui, votre boulot, c'est pas aussi d'emmener des enfants pour aller voir justement la richesse de la nature et leur faire prendre conscience de la priorité qu'il y a à la défendre?
Oui, c'est sûr. En 2008, j'ai construit un bateau parce que tout à l'heure, on parlait de comment je voulais aller avec Jacques Cousteau sur son bateau pour sauver notre terre, pour filmer des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Et là, j'ai construit un bateau pour amener des jeunes adultes entre l'âge de 15 à 20 ans, gratuitement autour du monde. Et puis, on faisait des projets environnementaux. On l'éduquait sur comment conserver notre planète, comment faire des programmes de reconstruction de ce que l'homme a détruit.
Des actions que vous ne médiatisez pas, d'ailleurs, au passage.
Non, on parle très peu de ces actions, tout simplement parce que je crois que ça doit devenir notre style de vie. C'est quelque chose qu'on doit faire par obligation. C'est presque comme manger et respirer. On ne le fait pas par obligation, mais on le fait quand même sans savoir. Ça veut dire que si on veut sauver notre planète, ça doit devenir comme manger et comme respirer.
Alors je précise, Mike Horn, que vous participez d'ailleurs aujourd'hui à l'opération Utopia. C'est jusqu'à 23h ce soir. Des youtubeurs sont en direct sur YouTube, évidemment, depuis la fondation Good Planet pour des challenges, des ateliers, des discussions sur le thème de l'écologie. Mike Horn, moi, dans les prochains mois, j'ai prévu de me réentraîner pour le semi-marathon. Vous, qu'est-ce que vous allez faire?
Écoute, nous on prépare notre bateau qui est à Lorient pour traverser de l'Atlantique, retourner un peu dans l'Amazone et puis de prendre notre route pour aller en Antarctique.
Ça sera évidemment beaucoup plus fort que mon semi-marathon. Mike Horn, merci infiniment. Survivre à l'impossible est à voir ce soir sur RMC Découverte et à lire aussi dans Survivant des glaces. C'est un récit publié chez Michel Lafon. 3 autres films seront diffusés sur vos autres aventures. Je vous souhaite un très bon week-end. Lundi, vous allez retrouver évidemment Sonia De Villers que j'embrasse affectueusement. C'est Pascal qui a remporté le livre de François Morel et on l'embrasse au passage. Thomas Chauvigneau, bonjour.
Bonjour.
Quel est le thème du dernier numéro de Grand Bien vous fasse de
eh
la
bien,
semaine
moins aventureux que pour vous. On prend un bain de forêt ce matin avant l'offensive de l'hiver. C'est sûrement le dernier week-end pour profiter des couleurs des feuilles, de l'odeur de la terre. Quoi faire en forêt? On attend dès à présent vos témoignages. Et puis si vous voulez bien nous refiler vos coins à champignons, ce serait sympa aussi. 0145 24 7000 ou sur l'appli de France Inter.